Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans les noms de lieux occitans du Lot. Alors oui, on connaît Rocamadour, bien sûr, mais on entend aussi parler de Montcuq ou même simplement de Pêche, un terme qu'on croise un peu partout. Qu'est-ce que ces noms ils nous racontent vraiment, hein, au-delà de l'étiquette sur une carte?
C'est une excellente question. Parce que ces noms, en fait, c'est un peu comme des fossiles, vous voyez. Ils nous ouvrent une fenêtre sur le Quercy d'autrefois. Et pour cette analyse, eh bien, on s'appuie sur les recherches qui sont présentées dans l'ouvrage Toponymie occitane du Lot, paysage et histoire. L'idée, c'est vraiment de décrypter comment ces noms témoignent du paysage, de son évolution aussi, de l'histoire et même du quotidien des gens qui vivaient là.
D'accord. Notre mission, en quelque sorte, faire parler ces noms pour mieux comprendre cet environnement passé. Alors, par où on commence? Le plus évident peut-être, le relief, le terrain, les formes du paysage?
Exactement. Le relief, c'est fondamental. Et le vocabulaire occitan pour le décrire, franchement, il est d'une richesse incroyable. Le terme le plus emblématique, j'irais, c'est sans doute pêche ou puèche ou puits. Ça vient du latin podium.
Ah oui, pêche.
Et figurez-vous qu'on en trouve plus de 300 dans le Lot. Ça désigne une hauteur, une colline, souvent arrondie. Ça vous donne une idée de l'importance de ce type de relief dans le paysage local, quoi.
Pêche partout, d'accord. Et on voit des variantes comme pêche medja, ça veut dire quoi? Mitoyen ou moyen? Ou pêche fuma, brumeux, c'est ça? Ça donne déjà une idée de la précision quand même.
Tout à fait. Pêche medja, c'est mitoyant ou médian, oui. Et pêche fumate, c'est la colline, souvent dans le brouillard, la brumeuse. Ça décrit vraiment le lieu.
Et y a-t-il d'autres termes marquants pour les hauteurs, Rébé? Parce que 300 patchs, ok, mais il doit y en avoir d'autres.
Ah mais oui, bien sûr. Costa, par exemple, pour le versant, la pente. C'est extrêmement fréquent aussi. Et là encore, on précise, hein, Costa calda ou cauda, selon les endroits, pour le versant chaud exposé au sud.
Ah, d'accord, le versant chaud.
Voilà. Et à l'inverse, mal écosté, pour celui qui est mauvais, peut-être difficile à cultiver, ou mal exposé. On a même, tenez-vous bien, Esquina de l'As, donc l'échine d'âne. À Calais, l'image est très parlante pour une crête un peu aiguë, non?
L'échine d'âne, j'adore. C'est super visuel. Ça montre bien comment nommer les lieux par l'observation directe, très concrète. Et Montcuq, alors, ce nom qui fait souvent sourire, il vient d'où exactement?
Ah, Montcuq. C'est amusant parce que c'est ce qu'on appelle une tautologie, un pléonasme toponymique, si vous voulez. Mont vient du latin mons, la montagne, la hauteur.
Oui.
Et cuq, ou tuc, suc, truc, ça vient aussi d'une racine prélatine ou gauloise signifiant hauteur, sommet pointu ou arrondi. Donc, en gros, Montcuq, c'est colline-colline ou mont-mont.
Mon, d'accord. C'est une façon d'insister, quoi, de vraiment marquer le coup sur l'importance de cette hauteur.
Exactement. Ça souligne la caractéristique principale du lieu.
Et Montjoie, qu'on trouve aussi parfois, ça vient d'où ça? C'est lié à la joie?
Ah, Montjoie, c'est une autre histoire intéressante. Ça viendrait plutôt du francique Mundgaoui.
Mangaoui.
Oui, qui signifiait quelque chose comme protection du territoire. C'était d'abord une hauteur stratégique, défensive. Puis, par extension, ça a désigné les tas de pierres que les pèlerins, notamment, laissaient sur les chemins pour marquer leur passage, une limite ou un point de vue important. Une évolution de sens assez parlante, en fait.
Fascinant. On voit déjà comment un simple nom de hauteur peut nous raconter la géographie, bien sûr, mais aussi la perception du lieu et même l'histoire ou certaines pratiques comme le pèlerinage. Mais bon, après les hauts, il y a logiquement les bas, non? Les vallées, les creux.
Tout à fait. Et là, le mot star, si j'ose dire, c'est combe. D'origine celte, on le trouve absolument partout, avec près de 160 occurrences dans le Lot. C'est la vallée encaissée, le vallon.
Combe. Ok.
Et les dérivés sont savoureux. Combe, ferra, par exemple, la combe saurage, difficile d'accès. Combe fine, peut-être une terre fine, friable. Combe loubatiéra.
Ah, celle au loup. Ça parle. On imagine bien l'ambiance d'autrefois.
Voilà. Ça nous dit quelque chose sur la faune de l'époque, clairement. Ou encore Combs Goura, la combe sombre, sans doute très boisée ou mal exposée au soleil.
Et pour les dépressions plus spécifiques qu'on trouve sur le Causse, ces trous un peu typiques du paysage calcaire?
Alors là, on parle souvent de clope ou cloupe pour la doline, cette cuvette typique formée par l'effondrement ou la dissolution du calcaire. Et il y a aussi crozo ou creusa, Ça, c'est un terme un peu plus large. Ça peut être un creux, une dépression, mais aussi une grotte, un abri sous roche, voire un terrier. La fontaine de Creuse, par exemple, c'est la fontaine du creux.
D'accord. Et vous mentionnez aussi Cuzol ou Cuzoul.
Oui, Cuzoul. Cuzoul, c'est intéressant parce que ça peut désigner une petite caverne, une grotte, mais parfois aussi, par extension ou confusion, une simple chaumière, une habitation très modeste. Un même mot pour des réalités assez différentes, finalement.
Ça montre bien la polysémie, hein, comment les mots peuvent évoluer ou avoir plusieurs sens selon le contexte. Alors, on a vu les formes générales, les hauts, les bas, mais est-ce que les noms nous disent aussi comment les gens percevaient ces lieux? S'ils les trouvaient agréables, désagréables, bien exposés, mal exposés?
Absolument. C'est très présent. L'exposition au soleil, par exemple, c'est crucial dans une région comme le Quercy. Donc, on trouve des noms comme Oricosta, littéralement la côte dorée, bien exposée.
Ah oui, joli!
Ou Orimont, le mont doré. Soleilate ou Soléon, pour un lieu bien ensoleillé. Et à l'inverse, on a Conquegela, la combe où Igerel tard ou fort. Ou les Fréges, Roca Fréja, pour des lieux ressentis comme froids, peut-être à l'ombre ou exposés au vent du nord. Il y a un jugement de valeur, ou du moins une description très sensible.
Et des noms comme Beauregard ou Miramont, ça semble assez clair, ça.
Oui, là, c'est clairement positif, hein, la belle vue, le belvédère, c'est assez transparent. Mais on a aussi l'opposé, l'Infernet par exemple, le Petit Enfer, sans doute un lieu particulièrement hostile, difficile d'accès, ou lugubre, ou Malpas, le mauvais passage.
Malpas, d'accord. Le préfixe mal semble souvent négatif alors.
Souvent, oui. Malmont, la mauvaise montagne. Mais attention, il faut être prudent. Parfois, mal pourrait aussi venir d'une très vieille racine prélatine mal, qui signifierait hauteur ou escarpement. Donc, un nom comme Malpêche ou Malcombe, ça pourrait être la mauvaise colline, la mauvaise combe, mais peut-être aussi simplement la colline escarpée, la combe encaissée, une sorte de tautologie encore une fois. Le contexte est important, il ne faut pas toujours y voir un jugement négatif. Malvie, par exemple, c'est juste un nom de personne germanique.
D'accord, d'accord. Il faut parfois se méfier des traductions un peu trop rapides ou littérales. Et le vent, Evelyne, est-ce qu'il a laissé sa trace dans les noms de lieux? J'imagine que oui, dans ces paysages ouverts.
Et comment? Le vent est très présent. Vous avez des buffe-vent ou buffou de vent. Ça se passe de commentaires. Hein.
Ça souffle.
Exactement. Masse d'Elvent, la ferme du vent, la route des quatre vents. Pêche la buffe, la colline où ça buffe, où le vent souffle fort. Fabouval, peut-être la vallée venteuse. On sent presque les courants d'air rien qu'en lisant ces noms.
C'est vrai. C'est incroyable comme ces noms rendent le paysage vivant, presque palpable. Maintenant, si on regarde le sol lui-même, le Lot est très connu pour ses causes calcaires, cette pierre omniprésente. Mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Le livre parle de différentes régions.
Non, en effet. L'ouvrage rappelle bien qu'il y a plusieurs pays géologiques et agricoles dans le Lot. Vous avez les Ségala, au nord-ouest, traditionnellement des terres à seigle, plus acides. Le Limargue, à l'est, avec des marnes plus riches. Les Causses, bien sûr, ces vastes plateaux calcaires au centre. Et la Bouriane, à l'ouest, plus vallonnée, plus boisée, peut-être liée aux Boréas, les fermes.
Causse, j'imagine que la pierre domine dans les noms.
Ah oui, c'est flagrant. Il y a une très vieille racine pré-indo-européenne même, car ou gar, qui veut dire pierre, rocher. On la retrouve probablement dans Garriga, la lande rocailleuse typique du sud.
La garrigue, oui.
Et puis bien sûr, le mot occitan pour la pierre, peira. Il est omniprésent. Peira, per, peirille, parfois avec des précisions. Peira bruna, la pierre brune. Peira menuda, les petites pierres. Peira levada ou peira lad, c'est la pierre levée, souvent un mégalithe, un dolmen ou un menhir. Peira trucada, la pierre trouée, une arche naturelle.
Fascinant.
Et roc, alors, le rocher. Roc ou roca, c'est l'autre terme majeur pour le rocher. L'affleurement rocheux, souvent associé à une fortification ou un habitat troglodytique. Ça a donné rocamadour, bien sûr, mais aussi rocacave, la roque, en roque, roquette, petit rocher. Le paysage minéral parle énormément à travers ces noms. Roc de l'Agace, le rocher de la Pie, roc troucate, le rocher troué.
Mais il n'y a pas que la caillasse, heureusement. Vous parliez du Limargue, par exemple.
Non, non, heureusement. On trouve aussi des termes liés à la terre elle-même. Terra et ses dérivés. Terral, terron. Terra roja pour la terre rouge, riche en fer. Et puis des termes pour des sols plus spécifiques. Les argalias, pour l'argile. Les obugues, c'est souvent une argile lourde, une marme, parfois utilisée pour la poterie. Bolbena, c'est un sol argilo-sablonneux, souvent considéré comme fertile. Soula, un limon sablonneux. Ça nous renseigne sur le potentiel agricole des différents lieux.
Le sol, la pierre, l'autre élément vital, c'est l'eau, surtout sur les causses où elle peut être rare en surface. Comment est-ce qu'on nommait les points d'eau ?
Alors, curieusement, le mot « ega », l'eau, est assez rare dans les noms de lieux eux-mêmes. Peut-être trop généraux. Mais par contre, les sources, elles, sont capitales et très présentes. Le terme roi, c'est « fonte » ou « fontana ». Il y en a des centaines.
Ah oui ?
Des centaines. Font Belle, la belle source. Font Blouse, la source claire, pure. Font Bastida, une source aménagée, construite. Mais aussi des noms beaucoup plus imagés ou descriptifs. Font Romiva, c'est la fontaine des pèlerins Romieux. Font Bouillant, une source qui bouillonne. Et même, accrochez-vous, Font Cagaïra.
Font Cagaïra, mais sérieusement.
Oui, oui. Celle qui donne la cagade, la courante, probablement une source aux vertus laxatives reconnues localement. Ça montre un rapport très direct, très pragmatique à la nature et à ses effets.
Incroyable. Ça alors.
Et dans le même esprit, on trouve des noms pour les sources à faible débit. Pisse bas, qui coule peu. Ou alors, avec des noms d'animaux pour comparer le débit. Pissaleb, ça coule comme un lièvre qui urine, donc pas beaucoup. Pissasaoma, comme une ânesse. Et même Pissarata.
Pissarata. La chauve-souris, le débit devait être vraiment minuscule. C'est incroyable de précision imagée.
C'est ça. Et à côté des sources, il y a bien sûr les puits, potes en occitan, très courant aussi. Potes, poux, pouzol, petit puits. Indispensable, évidemment.
Bien sûr.
Et puis tout le réseau hydrographique est nommé. Les rivières, rioux, rieux, les ruisseaux, rioles, rials, les gours, gorgas, gorges. Un trou d'eau profond dans une rivière, les guets, gars, gazella, passo, les cascades, sauts, tout est décrit. Et même les pertes, ces endroits où l'eau disparaît dans le sol calcaire, le souci, Témins, Acabario, là où finit le ruisseau, ou le mystérieux Négaboc.
Négaboc, ça veut dire quoi ?
L'interprétation est discutée. Peut-être noyer bouc, un lieu où on noyait rituellement des boucs, ou plus probablement un endroit dangereux où des animaux, voire des gens, se sont noyés accidentellement. Ça reste un peu énigmatique.
Tout un monde lié à l'eau, en tout cas. Après le minéral et l'eau, la vie, les plantes, les animaux, j'imagine que ça foisonne aussi dans les noms de lieux.
Ah oui, c'est absolument essentiel. La végétation est partout. D'abord, tout ce qui est arbuste, broussaille, taillis. Barta ou Barthe, les broussailles, souvent en bord de rivière. Buisson ou Buissou, le buisson, très souvent c'est le prunelier. Bruelle ou Bruée, le petit bois, le taillis.
D'accord.
Et puis les arbres, bien sûr. Le chêne pubescent, qui est un peu le roi du Causse, c'est le garric. À ne pas confondre avec le chêne pénonculé, casse. Le châtaignier, c'est castagne. Le noyer, nouguière. L'orme, aulme. Et là, attention aux déformations. Un lieu dit « holme mort », « l'orme mort » est parfois devenu « homme mort » par mauvaise compréhension du français.
Ah oui, quand même, la perte de sens est énorme là.
Exactement. Le hêtre, c'est faux. Il est plus rare aujourd'hui sur les causses, mais sa présence ancienne est attestée par des noms comme « l'éphage » à Carlucet, qui veut dire « les hêtraies ». Le paysage a changé.
Et le buis, si typique du causse, si présent.
Le bois, en occitan, oui bien sûr, « omniprésent ». Et puis des tas d'autres, l'érable de Montpellier, agar, le frêne, fraisse, le saule, le sauze, le noisetier, vaissa, très important autrefois pour la vannerie. On trouve aussi des noms collectifs. Albrada, un groupe d'arbres, aubresque, un bosquet, et bien sûr, bosque, le bois, la forêt.
D'accord. Et les animaux dans tout ça ? On a parlé des loups, de la combaloubatiera.
Le loup, l'ope, a laissé beaucoup de traces, oui. C'est souvent le signe de sa présence passée et de la crainte qu'il inspirait. Mais on trouve aussi énormément la chèvre. Cabra, crabasse, crabite, le chevreau. C'était un animal essentiel à l'économie et à la vie sur les causses.
Oui, j'imagine.
On trouve aussi la piogassa, le lièvre, le brao, le renard, guilhem, parfois utilisé comme nom pour le renard, ou mandagore. Et il y a toute une série de noms amusants formés avec le verbe « canta », chanter. « Canta loba », là où chante le loup, ou peut-être où on l'entend hurler. « Canta grille », le grillon. « Canta corbe », le corbeau. « Canta perdrice ».
C'est très poétique, ça. On entend presque le paysage sonore d'autrefois. Et est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus liés à des légendes, à l'imaginaire ?
Oui, tout à fait. On trouve des lieux liés au drac, ce lutin des eaux, des ponts et des grottes, très présents dans le folklore occitan. La moula, la mule, ou la monina, la guénon, le singe, peuvent aussi, dans certains contextes, renvoyer à des êtres fantastiques ou à des légendes. Et bien sûr, il y a tous les lieux liés au trésor.
Ah, les trésors.
Oui, le trésor des Anglais, le veau d'or, la fameuse chèvre d'or, souvent cachée dans des grottes, creusats ou des souterrains. L'imaginaire populaire imprègne fortement la toponymie, surtout pour les lieux un peu mystérieux, comme les grottes, les gouffres, les ruines.
On passe comme ça du paysage bien réel au paysage imaginaire. C'est vraiment passionnant. Mais revenons un peu sur Terre. Comment l'homme a-t-il marqué le paysage par ses activités? Le défrichement, l'agriculture, ça doit se voir aussi.
Ah oui, énormément. Le défrichement, c'est une étape clé. On le voit avec des termes comme haïssar, l'essar, la terre défrichée, boziga ou boéga, c'est une terre défrichée et mise en culture. Artiga, c'est une novale, une terre nouvellement défrichée, souvent en pente. L'écobouage, cette technique qui consiste à brûler la végétation pour fertiliser, a laissé des traces comme cramate, huscla, roustise, brûlée, grillée.
D'accord. Et une fois défriché, on cultive.
Exactement. Alors on a le camp, le champ, le prat, le pré, l'orte, le jardin près de la maison, et surtout la vigne. La vigne, omniprésente dans la toponymie du Lot, même dans des zones où elle a disparu aujourd'hui. Ça témoigne de son importance économique et culturelle passée. On cultivait aussi les céréales, bien sûr, fromental, terra froment, orge, avoine. Le chanvre, cannabals chanvre, était important, tout comme le lin ou même le safran, safranière.
Et l'habitat lui-même. Comment nommait-on les maisons, les fermes, les constructions?
Alors là, il y a toute une gamme qui reflète la diversité sociale et économique. Ça va de la simple cabane, baraka ou cabana, parfois badorka pour une masure vraiment pauvre,
Ok.
à la casella, cette fameuse cabane en pierre sèche si typique des Causses, qui servait d'abri temporaire aux bergers ou aux cultivateurs. Il y a aussi la gariote, un terme dont le sens a évolué mais qui désigne souvent aussi une construction en pierre sèche.
Et les fermes, les exploitations plus importantes.
Là, on a la borda, qui est souvent une ferme isolée, une métairie. Et surtout, laboria. Laboria, c'est un domaine agricole plus conséquent. C'est un terme tellement fréquent dans certaines parties du Lot qu'il a peut-être donné son nom à la région de la Bouriane.
Ah, d'accord. La bourriane viendrait de Boria. C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse très plausible, Ouli. Et puis, il y a le mas. Le mas, c'est l'exploitation rurale par excellence dans le Midi, la ferme avec ses terres. C'est aussi extrêmement courant. Enfin, hostal, c'est la maison d'habitation, le foyer, le lieu où l'on vit.
Boria, mage, ce sont des mots qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, effectivement. Et autour de la maison, l'espace qui n'est pas cultivé mais qui est important pour la vie du village.
Alors là, il y a le fameux coderc. Ce mot est essentiel. C'est cet espace herbeux, souvent près des maisons ou au centre du hameau, qui appartenait à la communauté. On y faisait paître quelques bêtes, les enfants y jouaient, il y avait souvent un point d'eau. C'était un lieu de vie sociale important.
Le coderc, d'accord.
Il y avait aussi le sol, l'aire de dépiquage, souvent pavée ou en terre battue. La cour, c'est la cour de ferme, mais aussi un enclos. Et puis tout ce qui sert à délimiter. Murat, entouré de murs, paris, peut-être une clôture, un enclos. Bara, barré, clôturé. Terme, la borne, la limite, la haie. Et la cléda, cette barrière mobile en bois qu'on utilisait notamment pour les parcs à moutons.
Une organisation très précise de l'espace agricole et villageois. Et les métiers d'autrefois, en dehors de l'agriculture, est-ce qu'ils ont laissé des noms de lieux, les artisans?
Énormément. Les plus évidents, bien sûr, le moulin, mouline ou mouline, le four à pain, forne, qui a donné le nom de famille Fournier, la forge, farga, est le nom du forgeron four ou fabre, très répandu.
Oui, ça c'est classique.
La tuilerie, tuilerie ou tiolier, le four à chaud, cale-forne. Mais on trouve aussi des traces de métiers plus spécifiques, plus rares. Le tonnelier, boutannier, le chaudronnier, pérouillier, le sieur de long, ressegar, le charpentier, fustier, le potier, aulière, féline, le sabotier, escloupier, le cordonnier, sabatier, le tisserand, tessieux. C'est comme une carte des savoir-faire anciens qui se dessine.
C'est fou, hein? C'est vraiment une carte économique et sociale du passé. Et pour relier tous ces lieux, toutes ces activités, les chemins, les voies de communication.
Ah, les chemins. Ils sont fondamentaux, bien sûr. Les plus anciens sont sans doute les drayas. Ce sont ces chemins de transhumance, souvent très larges, tracés par le passage répété des troupeaux depuis la préhistoire. Ils suivent souvent les lignes de crête.
Les drailles, oui.
Ensuite, vous avez le camin, le chemin plus ordinaire, et il est souvent qualifié par sa fonction ou sa destination. Camin carrétal ou caral pour les charrettes, camin ferrate, souvent une ancienne voie romane, empierrée, camin de la riviera, qui mène à la rivière, camin molinière, du meunier, camin d'Elsmortz, le chemin qui mène au cimetière. Et bien sûr, il y a les camins remieux ou remivals, empruntés par les pèlerins.
Les chemins de pèlerinage vers Rocamadour ou Compostelle. On a déjà vu la font Romiva, la fontaine des pèlerins. Il doit y avoir d'autres traces.
Oui, bien sûr, les noms d'hôpitaux ou d'accueil pour pèlerins. Saint-Jean, Beaulieu, Saint-Jacques, qui a pu donner magesse à Rocamadour. Ou les avitarellas, les vitarelles, qui étaient de petites auberges sur les chemins. Parfois, une côte particulièrement fréquentée prend un nom lié, comme la Costa del Papa.
Et les ponts? On pense forcément au pont Valentré à Cahors avec sa légende du diable. Est-ce que son nom nous dit quelque chose?
Ah, le pont Valentré. Sa légende est célèbre, mais son nom est plus mystérieux. Il pourrait venir de Balandra, un type de bateau à fond plat utilisé sur le Lot, ou être lié à un personnage nommé Valandre. C'est pas très clair. D'autres ponts ont des noms plus parlants. Pont Caral, le pont Chartier. Pont Roux, probablement de l'occitan roux, qui veut dire cassé, donc le pont cassé ou en mauvais état à une époque. Pont Nougat, peut-être de Néga, noyé, un lieu de noyade.
C'est vraiment incroyable tout ce que ces noms peuvent nous apprendre. Quand on prend le temps de les écouter, de chercher leur sens, on a voyagé à travers le relief, le climat, la flore, la faune, les cultures, les maisons, les métiers, les chemins, les croyances même. C'est vraiment une plongée dans l'histoire et la géographie intime du Lot.
Exactement. La toponymie, c'est vraiment une archive à ciel ouvert. Chaque nom est potentiellement une micro-histoire, un témoin d'un état passé du paysage, d'une activité disparue, d'une façon de voir le monde. C'est un patrimoine immatériel d'une richesse exceptionnelle, qui nous connecte directement à ceux qui ont vécu et façonné ce paysage bien avant nous.
Un patrimoine très riche, vous le dites, mais aussi fragile, non? Le livre mentionne la francisation, qui parfois déforme complètement les noms, la perte de la transmission orale.
Oui, c'est le grand danger aujourd'hui. Quand on dit ou qu'on écrit « pied noir » pour « pêche noire, la colline noire » ou « homme mort » pour « holme mort, l'orme mort », on perd complètement le sens originel, l'image, l'histoire. L'arrivée de noms modernes, neutres, comme le camping, la zone artisanale, c'est normal, ça fait partie de l'évolution, mais ça ne doit pas effacer cette mémoire ancienne qui est inscrite dans les noms occitans.
Mais il y a quand même une vitalité, non? Vous donnez un exemple amusant dans le livre.
Ah oui. Heureusement, l'occitan montre aussi sa capacité créative. L'exemple de Tramposopa, trempe-soupe, pour désigner une micheline, un petit train local, c'est assez savoureux, non? Ça montre que la langue peut encore créer des images fortes et populaires.
Tramposopa? C'est génial. Alors, que faire pour préserver ce patrimoine linguistique et historique?
Le premier pas, je crois, c'est la prise de conscience. Comprendre que ces noms ne sont pas juste des étiquettes, mais qu'ils ont une profondeur. Passer du paysage carte postale qu'on regarde de loin au paysage patrimoine, chargé de sens qu'on essaie de comprendre. Ensuite, c'est important de collecter ces noms, surtout ceux qui ne subsistent plus qu'à l'oral, auprès des anciens.
Oui.
Et puis, pourquoi pas, comme le suggérait déjà le grand linguiste Albert d'Oza au milieu du XXe siècle, rétablir les formes authentiques occitanes sur les cartes, sur les panneaux, ou au moins les expliquer. La signalisation bilingue, comme on en voit de plus en plus, par exemple au Val d'Ara en Espagne ou dans certaines régions d'Italie, c'est une piste intéressante. C'est d'ailleurs encouragé par une recommandation du Conseil de l'Europe depuis 1981. Ça rend visible cette richesse cachée.
Une belle idée, en effet, pour garder ce lien vivant entre le nom, le lieu et son histoire. Pour finir, peut-être une petite question pour la route, pour ceux qui nous écoutent. Quel nom de lieu, tout près de chez soi, qui semble aujourd'hui parfaitement banal, peut-être même un peu laid ou insignifiant en français, pourrait bien cacher une histoire oubliée, un bout du paysage d'autrefois, une anecdote savoureuse. Si on grattait un peu le vernis du français, si on cherchait sa racine occitane ou une autre langue locale, qu'est-ce qu'on découvrirait? La curiosité, finalement, c'est peut-être le meilleur outil pour explorer son propre territoire et y retrouver des trésors cachés.
C'est une excellente invitation, en effet. Regardez autour de soi avec un œil neuf et surtout une oreille attentive aux échos du passé dans les noms qui nous entourent.